12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Nous parlons ce midi de deux nouvelles adaptations sur scène où vous risquez de rencontrer des fantômes. D'abord un texte du grand dramaturge britannique William Shakespeare, c'est l'artiste italienne Sylvia Costa qui s'y colle à la comédie française avec une mise en scène donc de la pièce écossaise Macbeth. La seconde pièce a été écrite par le dramaturge français Jean-Claude Grimbert. Moment pourquoi les méchants sont méchants. La mise en scène est signée des deux. Ah bah ça vous fait rire, voilà, il fallait bien que ça fasse rire nos critiques. C'est écrit comme ça, je le lis comme ça. Moment pourquoi les méchants sont méchants, mise en scène des deux comédiens Hervé Pierre, Clotilde Bollet, accompagnés de leur fille Noémie Pierre. La pièce se joue à la Scala Paris.
Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de IO Magazine et productrice de la chronique Le Grand Tour sur France Culture tous les soirs à 19h50. Et bonjour à vous, Victor Inizan.
Bonjour Géraldine, bonjour Nicolas.
Vous êtes docteur en études théâtrales, dramaturge et critique. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Et nous commençons donc ce débat critique avec Macbeth d'après William Shakespeare, adaptation, mise en scène et scénographie signée Sylvia Costa, c'est jusqu'au 20 juillet à la Comédie Française.
Que la terre te cache, car tes os sont sans moelle, ton sang est froid, y a pas de pensée dans ce regard que jette sur moi tes yeux.
Soit sanguinaire, soit téméraire, soit résolu. Hérite-toi du pouvoir de l'homme, méprise-le. Aucun être né d'une femme ne peut rien contre toi, Macbeth.
Macbeth face aux fantômes dans cet extrait et dans cette adaptation de la pièce écossaise, comme on la surnomme donc, par l'artiste italienne Sylvia Costa, la metteuse en scène et scénographe, a donc tranché dans le texte pour proposer une intrigue plus resserrée. 8 comédiens seulement pour incarner les personnages principaux du drame. Macbeth, on vient de l'entendre, Lady Macbeth, le roi Duncan, l'honnête Macduff, le général Banquo et les 3 sorcières, celles-là même qui donc vont dire à Macbeth, vont prévoir à Macbeth, j'ai écrit un mot qui n'est pas le bon mot, donc c'est pour ça que je suis un peu perdu, mais vous ne m'en voulez pas, qui vont prédire, voilà, c'est le mot que j'ai cherché à Macbeth, un avenir sur le trône. La mise en scène est épurée, chorégraphiée, joue beaucoup sur les symboles, c'est un théâtre un peu poétique, visuel, comme Sylvia Costa sait le faire, elle a longtemps été complice et cela explique peut-être tout de Romeo Castellucci, dont on avait parlé ici même avec son adaptation de Bérénice. Il y a du sang, beaucoup de sang, rouge, à l'image de cette première scène dont vous allez nous parler, j'en suis certain. Il y a du sang aussi, une bande son et des voix modifiées comme on vient de l'entendre. Et puis il y a du sens, on entend bien le texte de Shakespeare. Et vous, Victor Inizan, qu'avez-vous pensé de cette adaptation?
Je crois que je suis assez mitigé au sens où c'est un spectacle qui a un peu les qualités de ses défauts et vice-versa. La sensation qui domine pour moi, c'est assez étrange, ce serait presque celle d'un Macbeth qu'on aurait un peu délesté de son aspect fantastique. Au sens où Macbeth, on sait, c'est une pièce de vision, d'hallucination. Or, le parti pris de Sylvia Costa, je crois, c'est de traiter ces hallucinations dramatiques par des images qui sont en réalité assez peu situationnelles, assez abstraites, hein, en fait, qui marchent plus ou moins bien. Et là, je parle pas tant des images symboliques, type cette espèce d'immense anneau au-dessus d'eux, là, avec une inscription déjà mortuaire en latin, qui, à mon avis, est un peu sans intérêt, mais plutôt les images qui devraient vraiment prendre part au drame. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, la série de tenue blanche lors de la scène du banquet, comme ça, qui représente la descendance de Banquo qu'hallucine Macbeth. Et ce choix des images, à mon avis, il est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est pertinent parce que ça crée évidemment un univers visuel fort, même des fois une sorte d'inquiétante étrangeté. Mais de l'autre, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu comme si ça déréalisait, ou du moins ça décrédibilise le fantastique, qui est quand même censé surgir normalement le fantastique dans un monde qui le précède. Et ça met un peu les acteurs en difficulté. J'ai souvent eu la sensation que les acteurs jouaient un peu face à rien, ou du moins face à rien qui les menace vraiment. C'est notamment le cas de Macbeth, ce qui fait qu'on a un peu l'impression que le plateau aguiche un peu plus notre regard que la folie de Macbeth. Et du coup, les acteurs souvent joue de manière un peu hiératique, un peu chorégraphiée, mais je trouve que cette chorégraphie met surtout en avant, en valeur, le fait que il n'y a pas vraiment de prise dans ce spectacle sur la réalité du drame.
Marie Sorbier, trop chorégraphié, pas assez de fantastique.
Alors je suis aussi mitigée, mais je prends particulièrement à l'inverse de Victor.
Parfait.
Alors ce que j'ai trouvé très réussi, c'est justement qu'elle a gardé, selon moi, tout le côté surnaturel de Macbeth. Ce qui lui manque, c'est la trivialité. On n'a plus du tout de trivialité. Or, Shakespeare, c'est quand même les deux en même temps. C'est à la fois la spiritualité et le surnaturel et cette trivialité. Là, il n'y en a pas. On est sur quelque chose de très propre, de très lisse, d'esthétiquement, j'allais dire surligné. Après, c'est vraiment la patte de Sylvia Costa. Tous ses spectacles précédents étaient comme ça. C'est-à-dire qu'elle appuie tout ce qui peut être esthétique. Parfois, c'est un peu à outrance. Moi, je trouve ça assez beau. Les poses maniéristes dont vous parliez, Victor, toute cette partie chorégraphiée, moi, je la trouve très belle. Par exemple, elle a un jeu de mains qui est assez caractéristique de son travail. Quand Macbeth parle face publique et quand il s'adresse à Lady Macbeth, il a une façon de poser ses mains comme un peu dans un tableau de la Renaissance, voyez, avec des mains comme ça, très chorégraphiées, très gracieuses, très belles et posées, ce qui donne ce côté très pictural. Et ça, moi, je trouve ça très beau, ça m'a fascinée, j'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir. Après, là où peut-être qu'on va se rejoindre, c'est que tout ce côté esthétique à outrance cache un peu la tragédie, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un spectacle pictural, presque dans une installation ou dans une performance, mais ça m'a manqué de Shakespeare. J'ai pas retrouvé et la force et la profondeur de ce texte-là.
Ça, c'est lié à quoi, selon vous, au fait d'avoir resserré, réduit le nombre de personnages?
Oui, alors c'est lié à deux choses. Dramaturgiquement, je trouve que ça tient pas à son montage. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des personnages essentiels à l'intrigue qu'on retrouve uniquement à la fin, le fameux Macduff, qui va finir par faire capoter toute cette histoire-là. En fait, il arrive un peu comme une fleur dans les trois quarts du spectacle, on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la pièce, c'est quand même assez difficile de s'en rendre compte. Alors que ce qui était assez beau au début, moi j'ai plutôt préféré la première moitié du spectacle parce qu'elle assume des silences. Elle assume des silences hyper longs. Par moments, ils ne se disent rien alors que c'est une pièce plutôt bavarde. Il y a du texte dans ce texte de Shakespeare. Là, non. Et ça, ces moments d'attente anxieuse où Macbeth est avec Lady Macbeth et qu'ils sont en train de fomenter leur crime et que lui, c'est pas le doute, tout ça, c'est assez bien rendu. Mais ce qui, pour moi, marche le mieux et là où vraiment j'ai aimé son travail, c'est sur les sorcières. C'est alors, sur ce côté surnaturel que j'ai trouvé hyper réussi.
Sylvia Costa assume, elle dit, moi, ce qui m'intéresse dans ce texte-là et dans cette pièce, c'est l'abstraction, tout ce qui échappe à la logique, tout ce qui est irrationnel, et donc elle donne une part plus importante à ce personnage de ces trois sorcières qui dit, voilà, elles sont là, elles ont une fonction un peu de paysage, elles occupent cet espace et donc la scène, j'imagine bien, Victor est disant, qu'est-ce qu'elles ont de particulier dans cette adaptation, ces sorcières, et est-ce que c'est aussi intéressant que ce que nous a dit Marie?
Oui, effectivement, on est mitigé, mais pas pour les mêmes raisons, je crois. Comme vous le disiez, Nicolas, effectivement, les sorcières ont les sœurs fatales, en fait, dans cette version, ont une importance toute particulière. Mais en fait, cette importance toute particulière, cette idée de les placer comme paysage, qui est une très belle idée sur le papier, hein, vraiment. Je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée, au sens où, la plupart du temps, ce qui se passe concrètement, c'est surtout que les acteurs et les actrices qui campent les sorcières jouent d'autres rôles secondaires. C'est ça qu'on voit surtout.
Sulian Brahim, Biramba et Jennifer Descartes.
Exactement, qui jouent aussi bien les assassins, mais aussi des portiers, des intendants divers et variés. Et donc, c'est pas inintéressant au sens où ça accentue l'impression qu'effectivement ces sorcières rôdent. Désolé de revenir un peu sur cette marotte du fantastique, mais le problème de ça, c'est que du coup, ces sorcières, puisqu'elles sont un peu paysagères, je sais pas comment dire, elles ont plus vraiment de marge de manœuvre pour surgir et pour inquiéter Macbeth. Ce qui fait que, en plus, deuxième élément...
On s'habitue trop à elles.
Comme elles sont partout, ce qui est pas, encore une fois, hein, c'est juste, elles sont partout, mais du coup, elles ne nous inquiètent pas vraiment. Et la deuxième chose, en plus, qui peut-être participe un peu à ça, et c'est pas bête non plus sur le papier, loin de là, c'est que Sylvia Costa décide de rapprocher Lady Macbeth de ses sœurs fatales. Alors, vous évoquiez la première scène qui est vraiment très belle, hein, même c'est peut-être la plus belle scène du spectacle, où là, il y a vraiment une sorte de collusion d'écho puissant entre les deux.
Faut nous la décrire un tout petit peu.
Oui, en fait, c'est vraiment une image, j'allais dire presque de genre, assez horrifique, où on a Lady Macbeth, enfin, on ne sait pas encore, on devine que c'est elle,
une très longue,
qui est vraiment, et qui est probablement le personnage le plus profond, hein, du spectacle, qui est le mieux traité, qui avec une très longue chevelure. Derrière, on a un tableau de Macbeth qui n'est pas encore roi, et qui va se mettre un petit peu comme dans les films d'horreur, en fait, à se retourner très doucement, comme pour préciser que la pièce est déjà, dès le début, complètement hantée. Et ça, c'est très beau, parce que effectivement.
Et elle s'arrache les cheveux.
Et elle s'arrache les cheveux, voilà, effectivement. Et elle a tout un ensemble de gestes, un peu de convulsions de main qui fait, voilà. Et quand les gens rentrent, quand on rentre dans la salle, c'est déjà ça. Mais le problème de ça, à mon avis aussi, c'est que ça renforce Lady Macbeth, et ça c'est très bien, mais ça évite aussi les sorcières qui deviennent un peu fourre-tout et qui sont pas vraiment les présences sourdes qu'on aurait voulu et qui n'existent un peu, à mon avis, que sur le papier.
Marie Sorbier.
Oui, mais je pense que, en fait, l'intention de Sylvia Costa, c'est pas de faire un Macbeth inquiétant. Vous parliez d'inquiétude, c'est vrai qu'elle n'y est pas, mais je crois que c'est
alors
pas
c'est
du tout ce qu'elle veut faire. Je crois qu'elle a voulu faire un Macbeth dépressif et puéril. C'est d'ailleurs le sens des dernières scènes où Macbeth apparaît vraiment comme un enfant. Je sais plus, à un moment donné, je crois qu'il suce son pouce. Enfin, ouais. Il a un truc accoudé, enfin, complètement collé à Lady Macbeth comme si c'était sa mère. Et il est vraiment neurasthénique, hein. Il y a des moments, il a vraiment zéro de tension alors qu'il est en train de se passer des choses quand même assez graves autour de lui. Donc, l'inquiétude, je crois pas que ce soit son sujet. En tout cas, elle est pas sur scène clairement. Et donc, ces trois sorcières, ces sœurs fatales, en effet, elles provoquent pas d'inquiétude. Moi, ce qu'elles m'ont provoqué, c'est un aspect immersif. Immersif du théâtre. Et j'étais complètement avec elles parce qu'en plus de leur présence, c'est un cerbère, hein, c'est un corps, enfin trois corps pour le coup, mais on a l'impression que c'est une personne à trois têtes, quoi. Et elle a fait, Sylvia Costa, un travail sur le son hyper intéressant aussi dans cette pièce, c'est-à-dire que ces voix un peu trafiquées, y a des sons un peu métalliques, comme si on était dans le château ou dans une église à l'extérieur, et en fait le son est complètement diffusé partout dans la salle Richelieu de la Comédie Française, et dès que les sorcières arrivent, on a cette espèce d'atmosphère un peu étrange. C'est pour ça que je trouve que le surnaturel est plutôt bien rendu, là où elle a plutôt pêché sur le côté concret de cette mise en scène, quoi.
Oui, je suis en fait assez d'accord. C'est vrai que probablement l'inquiétude qui est forte dans le texte n'est pas au centre de son adaptation. Et les moments, pour dire quelque chose d'un peu positif quand même, de ce spectacle-là, c'est, paradoxalement, on aurait peut-être voulu que la trivialité soit remise un petit peu plus au centre. De l'autre côté, j'ai aussi le sentiment que les moments qui marchent le mieux dans le spectacle sont quand même ces temps où l'image prend complètement le dessus sur le texte, quitte à quasiment l'écraser un petit peu. Alors la première scène, c'est évident, je pense aussi au cri de Macduff quand il découvre le meurtre du roi, à une machine comme ça qui arrive tout simplement, qui tourne des tuniques et qui ressort, et en fait l'image existe juste pour elle-même à ce moment-là. Aussi toute la scène du banquet qui l'a complètement déréalisé dans une sorte de castelet mi-confessionnal, mi-château gothique, et toutes ces images-là, elles font sens. Comme je disais, parce qu'elles sont gothiques, et la pièce, elle est en elle-même assez gothique, hein. Même des fois, ça va lorgner un petit peu du côté de l'expressionnisme. Et c'est, je crois, là que la force du spectacle, quand même, réside aussi, ce côté, et c'est pas gagné pour Shakespeare, livre d'images, le moment où, en fait, les images sont plus juste des symboles, comme type cet anneau, etc., mais vraiment où elles ne cachent rien d'autre qu'elles-mêmes, où les images deviennent un peu autotéliques. Et ça, je trouve que c'est quand même, on peut pas lui enlever, que visuellement, des fois, c'est quand même très puissant, quoi.
Quelle est la place à laisser à l'émotion dans cette atmosphère que vous avez décrite, dans cette importance du visuel, de ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a toujours de l'émotion? On entendait tout à l'heure évidemment le texte avec le mot sanguinaire, parce qu'il y a beaucoup de meurtres et d'assassinats dans cette pièce. Donc voilà, on en est où à ce niveau-là, Marie?
Alors moi, j'en ai pas ressenti du tout. Je trouve qu'elle joue pas du tout là-dessus. Sylvia Costa, c'est une cérébrale, et son spectacle est très cérébral. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est mitigé. Parce qu'en fait, intellectuellement, il y a plein de choses à dire. On pourrait en parler des heures de ce spectacle, analyser chaque scène, parce que c'est intelligent, parce qu'il y a du sous-texte, parce qu'il y a du symbole à gogo dans chaque scène. Donc, on pourrait s'amuser. C'est un peu un spectacle pour critique, vous voyez cette expression. C'est-à-dire un spectacle où on a de la matière.
On a bien fait de vous le donner.
Voilà,
alors.
Exactement. Pour discuter, et c'est très chouette. Après, en tant qu'expérience de spectateur, je trouve ça plus compliqué à vivre, parce que c'est un peu froid, c'est un peu à distance, et elle n'est pas là, Sylvia Costa, pour servir un texte. Hein. Elle n'est pas là pour te dire, voilà, je vais monter ma version de Macbeth. C'est pas du tout ça. Je crois qu'elle est pas dans une recherche textuelle, elle l'a jamais vraiment été. Elle avait fait un spectacle magnifique sur Pavès, par exemple. Pareil, je crois qu'il y avait trois phrases de Pavès à l'intérieur. Rappelons quand même qu'elle a été longtemps l'assistante et la compagne de route de Romeo Castellucci, qui est aussi connu pour triturer le texte, voire l'éliminer complètement. Elle a gardé ça de lui. Elle a gardé aussi cette façon de faire des paysages métaphysiques, et je trouve que ça marche très bien, mais c'est cérébral. Il faut pas y aller pour... Il me semble, hein, pour avoir une émotion quelconque. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Peut-être esthétique, c'est le seul endroit où là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a des images très belles. Mais peut-être que sur cette mise en scène-là, un peu moins que sur d'autres. Moi, j'avais préféré ces précédents. Celui-là, je le trouve un peu mastoc, un peu lourd. Par exemple, vous parliez de l'anneau. On pourrait en reparler, mais c'est l'élément principal de la scénographie. Il y a un immense anneau, un peu Seigneur des Anneaux. Vous voyez, un anneau doré, comme une alliance, qui flotte au-dessus d'eux. Parfois, même la manipulation de l'anneau, elle est un peu laborieuse. C'est pas hyper fluide comme truc. Et c'est massif. C'est un peu mastoc. Et quand elle utilise ces symboles, c'est un peu massif. Les couleurs, par exemple. On a parlé du rouge. Alors, c'est en rouge, blanc, doré et noir. Et noir. C'est un peu évident. Le rouge, c'est le sang. Hein. Dès qu'il y a eu un meurtre, le gars en question revient avec une chemise rouge à la place de blanche. Vous voyez, c'est un peu premier degré. Et la beauté du symbole, c'est quand il est un peu plus riche et un peu plus profond que ça.
Victor, sur les symboles ou sur le texte ?
Sur le texte, allez-y. Au sens où c'est peut-être un comble aussi que Sylvia Costa soit à la Comédie Française pour ça. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être voulu... on parlait de Castellucci, et évidemment, il y a Bérénice peut-être qui traîne un peu dans les esprits. Castellucci, lui, avait beaucoup plus violenté le texte de Racine que Sylvia Costa fait avec Macbeth. Bon, on est aussi à la Comédie Française, et c'est vrai que ça demande un peu aussi, c'est dommage de respecter le texte quand même dans une certaine mesure, même si...
Vous la trouvez trop contrainte par le texte ?
Oui, je la trouve trop contrainte par le texte, au sens où on sent, à mon avis, quand même l'espèce de contrainte du répertoire, et puis aussi cet aspect théâtralité un peu de la toile peinte qui fait que les images sont obligées de rester au stade de décor, alors que probablement, si on avait été encore plus loin, et que vraiment, on avait dit Shakespeare, libre d'image, Jean Macbeth, qui n'est pas gagné, hein, vraiment. Voilà. Mais comme c'est aussi, je trouve, l'endroit le plus fin et le plus audacieux, ça aurait pu être peut-être un petit peu plus profond.
Un dernier mot sur les comédiens du français. On a parlé de Julie Sicard qui interprète Lady Macbeth, Noah Morgenstern qui est Macbeth lui-même.
Alors, je le trouve formidable, Noah Morgenstern. Je trouve c'est pas facile, hein, il a une partition, encore une fois, entre silence, dépression et enfant. C'est un Macbeth compliqué. Moi, je l'ai vraiment, j'étais happée par lui, je le regardais, je trouvais qu'il arrivait à avoir des nuances de jeu qui était franchement pas facile, et en effet Lady Macbeth qui assume son côté sorcière pour le coup, et après c'est une troupe formidable, le français, il faut le redire, ils sont tous magnifiques, et là-dessus les deux personnages principaux sont dans leur rôle et les incarnent parfaitement.
Pour conclure, Victor.
Oui, je suis tout à fait d'accord, et effectivement avec une mention particulière pour le personnage de Lady Macbeth qui dans la version de Sylvia Costa est particulièrement mis en valeur et qui est vraiment très très bien interprété en l'occurrence.
Quand nous aurons le temps et le recul qui soupèse tout, il faudra qu'on se parle à cœur ouvert.
Bien volontiers.
Mais d'ici là... Silence.
Macbeth, d'après William Shakespeare, adaptation mise en scène et scénographie de Sylvia Costa, c'est jusqu'au 20 juillet à la Comédie Française.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent, et ça rigole déjà, de... Je vais le faire avec le ton.
L'accent.
Oui. Moment, pourquoi les méchants sont méchants ? De Jean-Claude Grimbert, mise en scène, Noémie Pierre, Hervé Pierre et Clotilde de Molay, c'est jusqu'au 19 juin à La Scala Paris.
Il m'énerve.
Pourquoi tu parles comme ça, maman, à ton petit Louis Titi, chéri ? Pourquoi tu fais ta grosse voix de camionneur ? Pourquoi tu grasses des dents ? Pourquoi tu roules des yeux ? Pourquoi tu frises ta moustache ?
Il m'énerve.
Maman !
On dit pas « moment, je te ferai dire ».
Comment on dit « moment, moment » ?
On dit « ma main », pas « moment ».
Que devons-nous à nos moments, à nos mères, dans ce que nous sommes devenus ? C'est cette grande question à laquelle tente de répondre ce texte et cette pièce dans un dialogue entre une mère, décidément, et son fils, qui balance entre humour et gravité, tendresse et brutalité, une pièce donc pour les adultes, mais aussi pour les enfants, qui commence par ce traumatisme qu'on connaît tous, enfants, cette peur du noir, celle de s'endormir, ce sommeil qui ne vient pas dans la scène inaugurale. D'ailleurs, on ne voit que des ombres, les silhouette du fils et de sa mère, alors que commence donc ce dialogue. Ambiance propice à la venue de fantômes qui sont donc inévitablement convoqués. Et comme le petit est effrayé, il ne cesse de poser des questions, et notamment celle-ci, moment pourquoi les méchants sont méchants. Dans un autre niveau de lecture, on pense bien sûr à l'auteur Jean-Claude Grimbert, marqué à jamais par la déportation de son père durant la Seconde Guerre mondiale. C'est Noémie Pierre qui met en scène ce dialogue entre sa mère et son père. Elle a choisi d'inverser d'ailleurs les rôles, et c'est donc Hervé Pierre qui campe moment, et Clotilde Molay qui joue Louis Titi, le fiston. Marie Sorbier, qu'avez-vous pensé de cette double histoire de famille ?
Alors moi, j'ai une tendresse pour Jean-Claude Grimbert, qui je crois est un des auteurs de théâtre qu'on oublie peut-être un peu aujourd'hui, mais qui fait partie vraiment du patrimoine français du théâtre. Hein. Alors c'est un vieux monsieur aujourd'hui, mais il a écrit des pièces majeures, je pense notamment à L'Atelier, qui était un de ses premiers succès et qui déjà parlait de la déportation dans un atelier de confection. Après, il a eu une série de pièces comme ça, vous savez, des pièces à anaphore. Alors ça s'appelait Ça va, ou Si ça va, bravo, ou voilà. Et donc tout le principe de ces pièces-là, c'était que toutes les scénettes, construit toujours en forme de scénette, commençait par la même phrase. Ça va ? Et le personnage d'après répondait. Maman, c'est exactement... Moment. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont des scénettes collées les unes aux autres qui commencent toujours par la même phrase, c'est-à-dire cet enfant qui interpelle sa mère. C'est drôle. C'est-à-dire que évidemment, on rit parce qu'il y a des jeux sur la langue. On l'a entendu. Peut-être que Nicolas, vous nous lirez quelques extraits
avec
tout à l'heure.
Plaisir,
je sais que vous avez le texte sous les yeux, mais parce qu'il y a des jeux de mots savoureux sur la langue française, ça joue, on les comprend très bien. Donc c'est plutôt drôle. Mais moi, ce qui me trouble à chaque fois que je vois une pièce de Jean-Claude Grimbert, c'est que on rit, mais en fait, c'est d'une tristesse mais abyssale qui est en train de se passer sur scène. Et donc il y a cette double émotion qui joue en permanence et qui pour moi, voilà, a fait que c'est quand même quelqu'un d'important dans le théâtre aujourd'hui. J'entends en tant qu'auteur, parce que je mets un bémol tout de suite à ce que je suis en train de dire, c'est que autant la pièce est super, l'écriture, autant les acteurs, quand même Hervé Pierre et Clotilde Mollet qui sont des grands acteurs, voilà, Hervé Pierre, Comédie Française pendant des années, autant il y a un vrai problème dans la mise en scène, alors scénographie et la musique que j'ai trouvée pour le coup laide. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire que ça les dessert complètement parce que ça les ramène dans un truc, je sais pas, on dirait un mauvais spectacle du Off à Avignon ou un truc un peu daté. En fait, ça fait vieux alors que déjà on peut, enfin voilà, c'est un texte voilà qu'il faut pouvoir jouer. Je suis sûre qu'on peut le jouer de façon beaucoup plus contemporaine, mais là, la scénographie les plombe totalement.
Je me laisse un peu de temps avant de lire le texte. On va revenir sur ce qui se passe sur scène, Victor Inizan. La mise en scène, vous êtes d'accord avec Marie Sorbier? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur scène? Comment est mis en scène ce dialogue?
Bon, ce qu'il faut peut-être déjà dire pour commencer, c'est que c'est vraiment une petite salle. Et donc la mise en scène, même si elle est assez audacieuse à peut-être certains endroits, la plupart du temps elle se contente d'accompagner plutôt le texte, avec, comme Marie en parlait, des interludes musicaux, et je suis tout à fait d'accord, ces musiques un peu grassouillettes là qui les servent pas vraiment. Il y a des interludes de théâtre d'ombre, un peu une scénographie qui est simple, hein, avec un ensemble de tissus qui se enfin une scénographie qui se dénude peu à peu. Ce sont des choses assez simples. Je suis pas, choqué par la mise en scène. En revanche, pour revenir un petit peu sur le texte, vous utilisiez le mot de patrimoine pour commencer, et moi, effectivement, je dois bien confesser que c'est pas trop l'habitude du théâtre que je vais, que je vais pas beaucoup voir ce genre de théâtre. Ça m'a semblé patrimonial, justement, au sens où c'est une théâtralité qui sent profondément le passé. Et à mon avis, là, le texte, bon, on sait, hein, Grimbert, ça a jamais été un grand avant-gardiste, quoi, formellement, notamment, hein, comme vous expliquiez, voilà, c'est vraiment un enchaînement de scènes qui sont linéaires, qui sont quotidiennes, qui sont banales. C'est toujours le même procédé, ça change pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que, à mon avis, on peut un peu s'ennuyer, se perdre dans le texte. En revanche, quand même, pour nuancer ça, je trouve que ce côté vétuste profondément de ce spectacle, là, je parle aussi bien du texte que de la mise en scène, est quand même un peu cohérent avec le propos, au sens où c'est un spectacle sur le passé et sur les souvenirs. C'est-à-dire que des souvenirs de Grimbert lui-même, puisqu'en filigrane, même s'il fictionne, il parle de lui en tant qu'enfant. Vous parliez, voilà, de la déportation, de la Shoah, qui est quand même, voilà, qu'on entend jamais factuellement dans le texte, hein, mais qu'on, voilà, qu'on devine quand même à plusieurs reprises. Et puis ensuite, le personnage de la mère ne cesse de parler justement de ses souvenirs à elle et de souvenirs de ses parents, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment une pièce d'un autre temps, et ce qui lui donne, c'est un peu immobilier comme remarque, pardon, mais un peu le charme de l'ancien. C'est-à-dire que c'est pas une pièce d'une grande ambition, mais c'est pas grave. Et puis comme on le disait, c'est une pièce familiale, hein, c'est une pièce sur une famille, faite par une famille. C'est un peu vieillot, mais pourquoi pas.
Et qui parle à toute la famille d'ailleurs, parce que il y a quand même, vous l'avez dit Marie, il y a de l'humour, il y a aussi de la tristesse, c'est les deux à la fois et ça parle à tout le monde.
En fait, on peut le lire à plusieurs niveaux, ce texte. C'est-à-dire que je pense que si un enfant de 10 ans voit la pièce, il va voir vraiment le niveau qui est joué, c'est-à-dire un enfant qui parle à sa mère et qui lui pose 10 000 questions par jour, et sa mère qui est épuisée, fatiguée, qui en peut plus et qui essaie tant bien que mal, avec son capital culturel à elle, de répondre aux questions de ses enfants.
Donc elle l'élève tout seul.
Elle l'élève toute seule, le père est parti, et puis il se pose des questions philosophiquement immenses, comme tous les enfants de cet âge-là. Pourquoi les méchants sont méchants? Allez-y, répondez à la question, moi je ne serais pas capable de le faire. Donc voilà, on est dans ce rapport-là de cet enfant qui interroge sa mère sans arrêt. Donc ça, un enfant peut évidemment avoir accès. Par contre, je trouve que là où moi ça m'a intéressé, c'est tout le sous-texte qui en effet n'est jamais dit. En fait, ça ne parle que de la Shoah, de l'antisémitisme, de l'exclusion, de la solitude. C'est vraiment des thèmes, c'est lourd en fait, hein, sous l'espèce de politesse de la pudeur et de l'humour en fait, c'est des sujets très lourds qui sont portés, et quand on connaît un peu l'histoire de l'auteur, voilà, on voit de quoi il parle, mais même quand on le connaît pas d'ailleurs, en tant qu'adulte, on sent bien tous les fils que ça tire, et c'est là où je trouve que ce sont des textes qui sont bien écrits, c'est-à-dire c'est des textes théâtraux, déjà il faut le dire, on en a plus tant que ça je trouve en ce moment, donc c'est un texte qui est écrit pour le théâtre. C'est un plaisir de comédien aussi parce que, je reviens sur la langue, mais c'est quand même difficile.
Allez, si je dors, je rêve, et toi, maman, t'es dans mon rêve, et moi, maman, je te dis dans mon rêve que j'ai peur, et toi, maman, tu me dis de mettre mon pyjama, mais moi, maman, puisque je rêve et puisque je dors, je peux pas le mettre.
Merci. Voilà, je crois qu'on l'entend. Ouais, c'était parfait. Je pense qu'on l'entend très bien. Non, je pensais aux deux comédiens parce que c'est quand même une performance. Hein. Clotilde de Molay joue ce petit garçon de 10 ans. Elle est vraiment campée avec son bermuda et son t-shirt assis sur un tabouret. Voilà, en essayant de sortir ce texte avec tous ces jeux de mots, ces espèces de fausses fautes grammaticales en permanence. Donc ça doit pas être si simple. Et Hervé Pierre, il est un peu délicieux avec son tablier de femme au foyer. Voilà, je crois que ça marche très bien. Et d'ailleurs, ils ont l'intelligence de pas appuyer cette question du genre. C'est-à-dire qu'il joue pas à être une femme, il est ce qu'il est, et puis il balance son truc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la dernière scène, les rôles se renversent. On est des années plus tard, et là, le petit Louis Titi est grand, et vient voir sa maman qui, elle, est âgée. Là, les rôles se renversent, et j'ai trouvé assez belle, d'ailleurs, cette dernière scène, que je trouve la plus réussie.
Sur cet inversement des rôles, peut-être.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie là-dessus. C'est vrai que cette inversion, elle est assez fine et assez intelligente. D'autant plus qu'effectivement, comme lors de la dernière scène, l'inversion voilà, se répète une nouvelle fois, et que c'est Hervé Pierre qui prend le rôle de Louis Titi. On a un peu l'impression que du coup Hervé Pierre joue vraiment les rôles d'adultes, tandis que Clotilde Molay aura un peu pris en charge la première et la dernière enfance, quoi. Et ça, c'est plutôt, je trouve, juste et intéressant, même si à titre personnel, je suis quand même resté, c'est du détail, hein, mais assez circonspect justement sur certains aspects qui sont exagérément infantilisants. Et là, je pense notamment à l'interprétation de Clotilde Molay, parce que Hervé Pierre, bon, pour ceux qui connaissent cet acteur, a une voix très grave, qu'il assume complètement, et c'est vraiment ce qui fait aussi l'aura de ce personnage de mère, je trouve ça assez beau. En revanche, Clotilde Molay joue un petit peu plus à jouer l'enfant, ce qui a l'avantage de créer quelque chose d'assez ludique à un certain endroit, mais par contre qui dessert un petit peu cette dramaturgie de la déréalisation, d'autant plus que la langue de l'enfant, on l'a entendu hein, dans l'extrait que vous lisiez, elle est très stéréotypée, plus que celle de la mère, et que des fois, il a un peu tendance, cet enfant, à devenir une tautologie d'enfant. C'est pas un gros problème, mais moi, ça m'a un peu gêné des fois.
Moment, pourquoi les critiques sont méchants pourquoi les méchants sont méchants? De Jean-Paul Grimbert, mise en scène Noémie Pierre, Hervé Pierre et Clotilde Molay. Les deux derniers jouent évidemment les rôles dont on a parlé. C'est jusqu'au 19 juin à la Scala à Paris, dans cette petite salle très très intimiste où on est vraiment à quelques mètres des comédiens et comédiennes. Merci à tous les deux, Victorine Nizan, Marie Sorbier. À ce soir 19h50 pour le Grand Tour sur France Culture. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de l'émission et sur l'appli Radio France.